Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Islam d'interdit, Islam de jouissance, tel est le titre cette solidarité entre l'interdit et la jouissance, interdit et transgression, du livre de Frédéric Lagrange, paru aux éditions Téraèdre dans la collection L'Islam en débat. Frédéric Lagrange, vous êtes professeur à l'université de Paris-Sorbonne.
Je suis maître de conférence habilité à l'université de Paris-Sorbonne.
Bon, bah, très bien. Donc futur professeur, très bientôt. Vous en avez la compétence en tous les cas. Alors, comment dire, ce livre, je dois dire passionnant, vraiment passionnant, très intelligent, très informé, circulant avec aisance. Dans l'islam classique comme dans l'islam actuel, allant de l'histoire à la littérature, à l'anthropologie, on a le sentiment aussi d'une implication dans le vécu. Hein. Vous êtes impliqué, je ne sais pas de quelle manière, mais le texte donne ce sentiment que vous êtes dans un vécu social de société islamique. Hein.
L'implication, elle vient d'une passion. De toute façon, que la passion vienne de la musique, que la passion vienne de la littérature, que la passion vienne des gens, la passion mène à une implication, et toute la difficulté d'écrire sur un sujet comme la sexualité en islam, comme la sexualité dans les sociétés islamiques, consiste justement à tenter de ne pas faire ce qu'on fait les prédécesseurs, à savoir projeter une expérience personnelle et de conclure à partir de ses propres souvenirs, à partir de son propre vécu, d'essayer de mettre son propre vécu, éventuellement de l'insérer comme élément parmi d'autres objets d'étude.
Nulle part, en termes d'anecdotes, en termes d'événements, vous n'êtes présent dans cette histoire-là, mais on sent une implication, on sent que c'est écrit par le corps, si j'ose dire. Hein. C'est présent. Comment vous dire, le livre est très intelligent, passionnant. Vous essayez de faire un sort à, disons, ce schème d'approche qui parfois, en effet, crée une forme de stéréotype. J'en conviens, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'un islam fabuleux qui serait l'islam des mille et une nuits, qui était un islam de jouissance, d'un islam de culte du corps, avec un islam pudibond, de société islamique, encadré aujourd'hui par l'islamisme, et une forme, il m'est arrivé moi-même de penser cela, maintenant en vous lisant je le penserai, je n'ai pas changé d'avis, mais je le penserai peut-être en y mettant de la nuance, certes. Mais cette idée, au XIXe siècle, par exemple, un intellectuel, prenons Nietzsche, allez, lorsqu'il parle du nihilisme du corps dans la tradition chrétienne, le contre-exemple par excellence qui lui arrive à l'esprit, c'est justement l'islam. Et il rappelle dans Ichiemo, par exemple, ce geste qui le fascinait au plus haut point, le premier geste, le premier acte catholique après la reprise de Cordoue a été de fermer les 700 hammams que comptait la ville islamique. Alors que pour Nietzsche, le hammam était le lieu même justement de ce culte du corps qu'on imaginait comme étant le propre de l'islam. Vous dites-vous non, il n'en est rien, la société profondément construite, ancienne par l'orthopraxie, était une société, elle aussi, qu'on peut imaginer pudibonde, et aujourd'hui, dans la pudibonderie, plus que des marges, il y a des choses qui bougent dans tous les sens, il y a du féminisme qui est en train d'émerger, il y a même toute l'idéologie homosexuelle, l'idéologie gay qui aussi a une présence dans ces sociétés-là.
Alors je vais vous répondre avec un exemple qui sera tout aussi allemand que le vôtre, mais au lieu d'emprunter à la culture haute avec Nietzsche, je vais redescendre dans une culture beaucoup plus populaire et dans le temps me fixer à 2007, lorsque paraît un album de bande dessinée de Ralph Koenig. qui est un dessinateur de bandes dessinées pour adultes allemand, et particulièrement de bandes dessinées qui font généralement une sorte de caricature de la vie gay, justement, des communautés gays d'Outre-Rhin. Et une planche de Ralph Koenig est particulièrement significative dans un de ses derniers albums. Il y a un avant-après. Le avant, c'est une danseuse avec évidemment un habit vaporeux, les seins qui pointent, quelques musiciens derrière elle, devant un public d'hommes qui la regardent avec désir, envie, et elle, tout corps offert à la musique, au plaisir, est censée illustrer cet avant de la civilisation arabo-musulmane. Et puis l'après, c'est une femme recouverte d'une burqa, à l'afghane, avec entourée de mollahs, longue barbe blanche, regardant le lecteur, en fait, directement, d'un air revêche. Et c'est intitulé « Avant-après ». Et cela représente, de façon caricaturale, drôle, mais en fait tout à fait fine et tout à fait réelle, ce qu'est, dans l'imaginaire occidental actuel, et pas seulement dans l'imaginaire occidental, également dans la représentation de beaucoup d'intellectuels du monde arabo-musulman, cet avant-après. Nous aurions, pensent les intellectuels du monde arabo-musulman, été une civilisation d'exaltation des plaisirs du corps, une civilisation laissant sa place au plaisir, laissant une expression au désir, et nous sommes dans l'âge de l'obscurantisme, dans l'âge où tout est interdit, où le plaisir est condamné, où la femme est recouverte d'un voile noir, où rien ne peut se dire, rien ne peut se faire, et où les pulsions les plus naturelles de l'individu sont réprimées. Et c'est cette représentation que j'ai voulu interroger. Dans quelle mesure est-elle réelle? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est l'islam de Mardrus et de Burton, c'est-à-dire les deux premiers traducteurs des Mille et Une Nuits, l'un en anglais, l'autre en français. Je parle de Galland.
Galland, évidemment. Oui.
Je veux dire, en fait, la phase Galland et la phase Mardrus, en fait, est une exagération de Galland. C'est, on rajoute des épices érotiques.
Galland a expliqué, comme il le dit dès le début, le principe du grand siècle de bienséance, ce qui fait qu'il a oblitéré disons la dimension charnelle qui est réelle dans les textes des Mille et Une Nuits, même le manuscrit sur lequel il a travaillé, qui est maintenant, comme vous le savez, disponible à la lecture. Et Mardrus, évidemment, a voulu,
Mardrus est celui qui conserve le piment, mais on rajoute une petite pincée. Et puis Burton également, dans le monde anglo-saxon. Alors, qu'est-ce qu'est le rapport de l'islam au corps et au plaisir? Est-ce que c'est la version Voltaire? Est-ce que c'est la version Renan? Est-ce que c'est l'islam chaîne la plus lourde que l'humanité ait jamais portée? Ou est-ce que c'est l'islam des danseuses, l'islam du plaisir, l'islam des hammams vaporeux, l'islam qui, justement, vous citiez Nietzsche, est...
De Flaubert, de cette dame nilotique qui, pour
de Kutchuk Hanem, absolument.
Et pour cacher son visage, découvre, nous dit-il, la nudité du cou au nombril.
Ah, ces tétons, comme j'en ai vu de ces tétons, dit effectivement Flaubert, se souvenant de ses promenades dans le Caire, où les paysannes ou les femmes du peuple préféraient se cacher le visage devant un étranger, et se cachant le visage, utilisaient le même tissu qui leur recouvrait les seins, et préféraient donc montrer tout à fait leurs seins, du moment que le visage n'apparaîtrait pas au grand jour. Et la question qui se posait est donc, qu'est-ce qui est vrai dans tout cela? Y a-t-il une cohérence dans ces représentations? Alors là, la première chose à faire était déjà de s'interroger sur le terme islam, était déjà de revenir à ce béaba, mais qui est tout à fait nécessaire, cette fondation à poser, et qui est de dire qu'il y a tout de même un islam petit i qui désigne une religion, et un islam avec un i majuscule.
Ça, vous nous le rappelez.
Une culture.
Vous m'y avouez que c'est un casse-tête. Vous publiez des textes tout autant que moi, et quel casse-tête avec nos éditeurs, parce que bien des fois, c'est l'un et l'autre, et arbitrairement, on est amené à opter pour le grand I ou le petit I.
Alors, il y a effectivement les demandes des éditeurs et l'orthographe du français qui nous force à revenir sur nos principes, mais il y a quand même une distinction à faire entre du
religion
droit, un
et
système
culture.
Religieux oui. dont les textes fondateurs du moment que l'on reconnaît leur validité sont le Coran et le Hadith dans le système religieux où on leur reconnaît
puis,
la validité.
Le fiqh qui est induit, c'est-à-dire tout,
voilà,
ça, tout
c'est
ce
un niveau
plus énorme de droit.
Ça, c'est, disons que ça c'est le noyau. Hein, le noyau de l'islam avec un petit i la religion, ce sont les textes fondateurs. Il y a autour ce qui encore fait partie de la religion, qui sont les textes émanant de milieux religieux et qui discutent, qui commentent, qui donne l'exégèse de ce noyau. Là, effectivement, ce sont les textes des fondateurs des écoles juridiques et de leurs continuateurs. Nous sommes encore dans l'islam. Et puis, il y a les pratiques sociales qui se réclament de l'islam, qui, parfois, en sont un reflet plus ou moins fidèle, je parle de ces textes fondateurs, parfois mettent l'accent sur des choses qui sont tout à fait secondaires. Par exemple, parlons d'un fait du corps. Nous savons que la circoncision masculine est un fait absolument dominant dans la réalité des pratiques musulmanes et que...
Mais elle n'a aucun fondement, elle n'a aucun fondement scripturaire.
À part pour certaines exceptions dues à à une aventure familiale, à une histoire familiale particulière, tous les musulmans mâles sont circoncis. Or, si cette circoncision a un sens dans le cadre judaïque, elle n'a aucun sens dans le cadre musulman.
Elle est vraiment de l'ordre de la coutume, sans plus.
Elle est de l'ordre de la coutume. Comment
en
se
plus,
fait-il
sans fondement scripturaire, mais c'est vrai que c'est le déterminant.
Un très léger fondement scripturaire. Alors, la question se pose parce qu'elle est justement un exemple même d'une pratique qui, dans l'islam vécu, est une pratique identitaire. Il s'agit d'un déterminant, il s'agit d'une pratique déterminante qui permet de dissocier entre musulmans et non-musulmans. Et quelque chose qui, dans les textes, est tout à fait minoritaire et surtout n'est pas théorisé. Fondamentalement, on ne sait pas à quoi ça sert dans le cadre scripturaire. Voilà, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, il s'agit simplement d'un de ces exemples où nous voyons que ce qui intéresse les docteurs de la loi n'est pas forcément ce qui, dans la réalité vécue des sociétés musulmanes, fera l'essence de l'appartenance à cette culture. Et puis nous avons également un islam avec un grand I, franchement, et il s'agit de toutes les productions culturelles de cette société qui parfois peuvent être en opposition franche avec l'islam avec un petit i. Et ce qui est remarquable, c'est que les oppositions, elles aussi sont normées. Les transgressions ne sont pas simplement des oppositions à la norme, les oppositions sont normées. A-t-on jamais lu, dans le cadre musulman, un éloge de la consommation du porc ? Ça n'intéresse personne. Jamais la consommation du porc n'a été vécue comme un interdit.
Elle n'a pas été
suscitant
une cible de la transgression.
Absolument.
Comme le vin, par exemple.
Absolument. C'est une cible. Manger du porc est une transgression, mais c'est une transgression qui fondamentalement n'intéresse personne. Il est des transgressions qui, elles, fascinent et qui, en quelque sorte, sont des transgressions normées.
Un gigantesque corpus, avouez-le.
Exactement. Hein. Ouais. Un certain nombre de transgressions sexuelles, un certain nombre de transgressions alimentaires et plus exactement la transgression de l'alcool, ont, elles, fondé leur propre école d'une production littéraire réfléchissant sur cette transgression à la norme et normant cette transgression.
Faites-vous de ce constat ? Je procède par constat, simplement. Une immense textualité dévergondée, vous êtes d'accord ? Elle existe. Elle est là dans la tradition et elle dure jusqu'au XIXe siècle. Citons quelques exemples. La poésie, de lien entre vin et sexualité. Nous reviendrons sur cette sexualité. Une poésie qui exalte, je dirais, Eros d'une manière, pour ainsi dire, parfois pornographique. Il n'y a pas un autre mot. Une littérature aussi de la débauche. La notion du débauche, c'est un concept, vous le savez, à l'intérieur de la cité classique. Vous connaissez bien ces textes-là, à Bagdad. Vous connaissez bien le terme, nous n'avons pas à faire les savants ici à l'évoquer dans sa lettre. Citons par exemple une littérature aussi très impressionnante pour ce qui concerne l'exaltation de la jouissance et de la débauche, par exemple ce fameux roman Min Hikayat Abul Qasim al-Baghdadi, les récits de ce héros de Bagdad, de Yazdi. Citons le théâtre d'ombre d'Ibn Daniel, qui nous est parvenu, ces textes de la fin du XIIIe, XIVe siècle, qui sont, comme on dit en arabe, du nombril et en dessous, et de la pudibonderie actuelle, où aucune textualité, en tous les cas de ce type-là, n'est présente. Citons les mille et une nuits, évidemment. Que faites-vous de ce qu'il en est de cette affaire?
Alors, je crois qu'il faut dissocier un certain nombre de points de tout cela.
Avouez que le corpus est immensément dense. Ajoutons autre chose. Que faites-vous de tous ces imams, je dis bien des imams, comme le Cheikh Nabzaoui, on l'appelle Cheikh, du XVIe siècle, un Tunisien, un compatriote du sud tunisien, et le fameux livre qui a évidemment suscité un gigantesque retentissement lorsqu'il a été traduit au XIXe siècle. On dit d'ailleurs que la version très bien écrite, il faut dire, qu'on a en français sorti anonyme aurait été écrite par Guy de Maupassant lui-même. Guy de Maupassant s'y serait reconnu. Ce traité d'érotologie qui montre qu'on coïte en islam au nom de Dieu. Que faites-vous de tout cela qui sont de véritables réalités? Et la pudibonderie actuelle et l'inversion, la fascination de l'humanité occidentale face justement à ce qui semble être une réalité, en tous les cas soutenue par une textualité immensément profuse, et par une peinture aussi. Vous devez savoir que nous avons des peintures de Hammam qui nous montrent des scènes, je veux dire, de pénétration entre hommes, par exemple. Vous avez longuement parlé des Hammam dans votre livre. Vous savez que c'est un lieu aussi de pratique homosexuelle assez spectaculaire, qui va jusqu'à la représentation visuelle. On a l'impression qu'il n'y a pas d'image en islam. L'image en islam va jusqu'à de telles interprétations. Et ce qu'il en est de l'ordre moral, il n'y a pas un autre mot, que veulent imposer les islamistes. Et vous savez que l'islamisme est terriblement diffus dans les consciences, même là où il n'a pas triomphé politiquement.
Une infinité de réponses à votre question, puisqu'il n'y a pas une question, en fait, c'est vous revenez à cette interrogation et à cette anxiété, qui est l'anxiété normale et légitime de tout intellectuel issu du monde arabo-musulman. Pourquoi cette fermeture et pourquoi ce sentiment d'un avant qui a été meilleur, qui a été plus doux et qui a été plus libre?
Pas meilleur, plus doux, qui a été producteur, je veux dire, le génie de l'humain s'est exprimé, c'est tout. Et en ce moment, il paraît en panne, c'est tout ce que je sais.
Alors, une sur première
la question
réponse,
du corps, notamment.
Une première réponse, en empruntant la formule à Mohamed Ben Khira, et qui est l'amour de la loi.
C'est un livre que je déteste de tous mes pores.
Que vous le détestiez ou non, je pense que Ben Khira a mis le doigt sur quelque chose qui est tout à fait symptomatique des sociétés arabo-musulmanes contemporaines et qui est cet amour de la loi et qui est l'incapacité à reconnaître ce que les générations précédentes ont vécu, à savoir la confiance dans la miséricorde divine. Un personnage créé par Naguib Mahfouz, qui est le personnage du patriarche de la célèbre trilogie de Mahfouz. Dans le titre français doit donc être l'impasse des deux palais
pour le premier tome.
Le patriarche est capable de faire marcher sa femme, sa fille et sa famille à la baguette et tous les soirs de boire du whisky et d'aller voir des prostituées en écoutant de la musique. Est-ce que cela veut dire dans sa perception du patriarche et dans la perception de Mahfouz qui est entre deux époques, qu'il est un homme hypocrite? Certainement pas. Mahfouz le présente avec une grande maestria comme un personnage tout à fait représentatif des conceptions et des représentations du XIXe siècle et qui vont vivre jusqu'au début du XXe siècle. C'est l'idée que montrer, exposer la transgression est infiniment plus grave que la transgression elle-même.
Parce qu'il y avait, il y a même là, je dirais, des références...
Il y a des références scripturaires là-dessus. Et donc, vivre le péché n'est pas si grave, car on croit à la possibilité, dans un même humain, dans un même homme, de pouvoir pécher et d'être pardonné. Ce qui est inacceptable dans cette perspective ancienne, c'est de revendiquer cette transgression comme étant un droit que l'on serait libre d'exercer. On peut l'exercer sans jamais
que
le revendiquer
que
comme un droit.
De cette immensité en 25 volumes qui grouille d'anecdotes, de livres, des chansons de Strahani.
Parce que justement, nous sommes dans la DAB, parce que nous justement,
qui a été écrit
nous
au Xe siècle et qui concerne, je veux dire, depuis Médine et la Mecque, chanter et danser à l'époque.
Parce que l'on représente, on ne présente pas ces transgressions comme étant un droit, on les présente.
On n'est pas dans la Médine et la Mecque des Wahhabites.
Mais parler est toujours retranché derrière la neutralité de celui qui rapporte une anecdote. Et vous remarquez comme la littérature arabe médiévale est toujours une littérature au deuxième degré. C'est toujours « je tiens d'après un tel, d'après un tel ». Il y a toujours un recul...
Abou Noël, c'est deuxième degré ? Khaled el-Kateb est au deuxième degré ?
Quand on le rapporte dans une anecdote...
Ce poète qui
oui,
chante
de
l'homosexualité
la part, quand on le rapporte dans une
et
anecdote...
Et la passion homosexuelle.
Oui, et lorsque l'on est un poète... On est un poète, et donc on y reviendra ultérieurement, la littérature est un espace dans lequel, justement, on peut dire la transgression. Maintenant, pourquoi est-ce que ceci disparaît au XIXe siècle ? Ça ne disparaît pas d'un coup, la diffusion disparaît. Et si la diffusion disparaît, l'une de mes hypothèses est que cette littérature de la transgression, de la débauche, du moujoun, pour employer le terme.
Vous l'avez enfin utilisé, très bien.
La littérature de moujoun n'est plus ressentie par les intellectuels du monde arabo-musulman comme étant compatible avec la modernité. Elle était tout à fait tolérable tant qu'elle était une littérature réservée à une élite, produite par une élite, consommée par une élite, reflétant des conceptions reflétant des représentations et sans doute un certain nombre de comportements réels dans la société. À partir du moment où il y a démocratisation de l'écrit, à partir du moment où la modernité veut dire que la partie de la population qui n'intéresse personne en littérature médiévale, le peuple, il n'y a pas de mot pour dire peuple. Le mot que l'on utilise actuellement en arabe pour dire shab n'existe pas.
Où situez-vous alors Ibn Daniel et les mille et une nuits, tout ce qui approche dans son Ibn expression
Ibn Daniel et les mille et une nuits n'ont pas exactement le même statut. Ibn Daniel est une réécriture drôlatique pour l'élite des pièces qui étaient évidemment des pièces populaires qui étaient en
c'est
dialecte.
C'est la transcription de ce qui était en dialecte.
Ce n'est pas une transcription, c'est une réécriture en arabe classique de ce qui était en dialecte, Mais cela fait partie de toute cette branche de la littérature qui a une légitimité et qui est la littérature de la débauche, qui est la littérature de l'obscénité, parce que nous sommes dans une culture. Nous sommes dans une culture qui est si confiante en elle-même et si confiante en sa supériorité qu'elle peut produire elle-même son espace de transgression. C'est ça l'énorme choc du XIXe siècle. La littérature médiévale arabe peut être transgressive, elle peut être obscène, elle peut célébrer la transgression de l'interdit parce que nous sommes dans une société qui est si confiante en sa supériorité, qui est si sûre d'avoir raison et qui est si sûre d'être au centre du monde, qu'elle peut parfaitement tolérer en son sein, qu'elle peut secréter elle-même ses espaces de liberté.
Mais en dehors de la transgression même, c'est à l'intérieur même de la loi, à l'intérieur même du nikah. Le nikah est un mot très ambigu en arabe. Il veut dire juridiquement le mariage, mais en même temps il a un sens premier de coït. Je pense au Cheikh Nafzaoui, il parle à l'intérieur du mariage. Mais à l'intérieur du mariage, il nomme un chat un chat. Il nomme un sexe un sexe. Et vous savez très très bien toute cette exaltation à la fois et du sexe masculin dans ses multiples érections, une exaltation phallique, mais aussi une exaltation et un véritable amour du sexe féminin.
Vous avez raison, toute une partie de l'érotologie n'est pas du tout une... Vous avez raison, toute une partie de la littérature érotologique n'est pas une littérature de la transgression. Elle a droit de citer.
Mais les deux ont droit de citer. Au nom de Dieu, le fameux verset coranique, vous le savez, qui choque plus d'un chrétien de l'époque médiévale, justement, parce que c'est là où il perçoit du charnel chez les musulmans, la comparaison du...
Le chant, les femmes sont un chant,
oui,
un
chant, un labour, et pas seulement ça, l'autre qui est beaucoup plus beau, c'est-à-dire vous êtes un habit pour elles, elles sont un habit pour vous, vous êtes une chemise pour elles, elles sont une chemise pour vous. Même des femmes actuelles féministes qui aiment l'amour revendiquent ce verset-là, j'en ai rencontré.
Tout à fait, il y a en fait l'érotologie arabo-musulmane classique a la fois un versant qui est dans la sexualité licite, et à partir d'un moment où une pratique est licite, parler de cette pratique est tout à fait toléré. Ce que je voulais dire, ce qui était...
Crûment.
Mais parce que le point fondamental auquel je veux arriver est que c'est le choc colonial, c'est l'un des effets du choc colonial que cette fermeture thématique. L'exaltation du plaisir public, dans l'écrit, légitimes pour
même
les intellectuels.
Dans les paroles, vous savez très bien, quand on est enfant de Médina, qu'est-ce qu'on entend dans les paroles du peuple? Vous dites
justement,
que le peuple ne connaît jamais ça. Qu'est-ce qu'on entend?
Et justement, on l'entend dans les paroles, mais on ne l'entend plus.
Et même cette truculence est en train de disparaître.
Et parce que justement,
sous le contrôle de cette police des mœurs qui est en train de s'imposer de partout et que sont en train d'imposer ces énormes médias des télévisions satellitaires et de leurs prêches catastrophiques.
La raison essentielle de ce choc de la pudibonderie est la confrontation avec l'Occident au XIXe siècle.
Je voudrais revenir à certaines nuances très importantes. Cette idée que la société, bon, on va utiliser des termes de maintenant qui ne correspondaient pas du tout à ceux de l'époque, que l'islam exaltait l'homosexualité, que c'était une société qui ignorait toute forme d'homophobie, vous montrez que à l'intérieur même de l'acte homosexuel, c'est de toutes autres considérations qui sont en jeu. On ne peut même pas parler d'homosexualité, vous parlez d'homo-érotisme, je crois.
Il y a un livre important.
Je crois que c'est une nuance très intéressante. Ce qui me paraît important dans ce que vous faites et dans ce livre, Islam d'interdit, Islam de jouissance, c'est que, visiblement, l'esprit, l'énergie, les moyens analytiques des gender studies, vous les prenez en compte et visiblement tout cet ensemble, toute cette manière d'approcher la question sexuelle a été projetée sur la tradition islamique elle-même, sur la littérature islamique concernant justement les rapports entre gens du même sexe, particulièrement masculin, et en même temps sur les faits actuels et l'anthropologie.
Alors, en ce qui concerne...
Prenons le cas d'Abou Noès, par exemple, le dispositif de l'homosexualité dans la poésie du IXe siècle, avec cette exaltation de l'éphèbe, par exemple.
Alors, justement, à partir du moment où il y a une exaltation uniquement pour l'éphèbe, il n'est pas possible, dans le cadre de cette culture médiévale, de parler d'homosexualité au sens moderne du terme. Un livre est paru il y a 2 ans, Khaled Al-Rouayhab, qui est un chercheur libano-anglais, et il a fait paraître un essai tout à fait capital qui s'appelle « Before Homosexuality », 1500-1800, et qui examine les discours tenus sur les rapports homoérotiques, aussi bien le discours de la loi que le discours de l'adab, le discours de la littérature, dans l'Orient entre 1500 et 1800, donc à la fin de l'époque mamelouk et le passage à l'époque ottomane. Si nous revenons un certain nombre de centaines d'années auparavant, donc dans la Bagdad du 8e siècle, à l'époque d'Abou Nouas, nous remarquons qu'on n'est pas du tout dans le schéma moderne de la légitimité de l'attraction d'un homme pour un homme. Si l'idée de l'homosexualité, si le terme central d'homosexualité, c'est « homo », même, cela veut bien dire que dans la conception moderne de l'homosexualité, on considère le partenaire comme étant équivalent à vous. C'est une sexualité entre personnes qui se regardent comme des mêmes, dans le cadre du genre, c'est-à-dire de la sexualité constituée socialement. Or, dans les rapports du Moyen-Âge, du monde arabo-musulman, qui continue le monde grec, qui continue le monde romain, qui continue les civilisations qui existent dans le bassin méditerranéen auparavant, ce qui est légitime dans le cadre littéraire, c'est l'attraction de l'homme pour les femmes, parce que on considère toujours l'homme comme étant le partenaire dominant pénétrant. Et l'attraction que l'homme, partenaire dominant et pénétrant, peut avoir pour des proies de tout sexe est vécue comme normale. Elle peut être illégitime lorsque cette personne, pour laquelle on éprouve une attraction, n'est pas du sexe opposé et n'est pas liée à vous par un contrat de mariage. Mais il y a... C'est une simple question de nuance entre le fornicateur et l'amateur de jeunes gens. Les deux, fondamentalement, sont des hors-la-loi religieuse et qui, dans le cadre très normé de la poésie de débauche, peuvent exposer, chanter, revendiquer leurs préférences. Mais ce que l'on ne trouvera pas, sinon de façon extrêmement anecdotique et donc intéressante, ce serait la revendication d'une attraction pour un homme du même âge. L'attraction d'un homme pour un autre homme, elle, est rarissime dans cette littérature.
On la voit peut-être un peu mieux, il y a une passion en tous les cas homosexuelle, alors que ce n'est pas le cas chez peut-être...
On peut avoir une passion homoérotique...
Chez Khalket, par exemple.
On peut avoir une passion homoérotique, mais là encore, la passion homoérotique, lorsque... elle n'est pas traduite en termes d'acte sexuel, n'est pas une transgression. Elle demeure dans le cadre de l'exaltation d'un amour chaste qui est une mode littéraire fondamentale entre, à partir du 8e siècle et fondamentalement jusqu'au 19e, voire au début du 20e siècle. Or, Abou Nouas est un homme qui exalte son amour des éphèbes en tant que partenaire dominant. Maintenant, il peut choisir volontairement de outrepasser, de dépasser ces limites normées, en quelque sorte, de la transgression habituelle, reconnue, et en prétendant accepter d'être le partenaire passif, si c'est un moyen d'arriver à séduire le jeune homme, et de profiter de lui comme partenaire actif, un échange de bons procédés. C'est une plaisanterie. Y croit-on ? Je ne sais pas, il faudrait demander en fait à un auditeur de ces poésies au 8e siècle, au 9e siècle, ultérieurement. Prennent-ils ceci comme l'annonce de la possibilité d'une homosexualité au sens moderne du terme, ou s'agit-il simplement d'une plaisanterie? Et où sont les limites du sérieux et du jeu dans ce type de production? Est-ce que l'on parle réellement de ces préférences ou sommes-nous, encore une fois, dans un type de littérature codée? Khaled al-Rouayheb, dont je parlais, faisait une remarque très juste, c'est que même s'il ne s'agissait que de code, le code est forcément lié à une réalité, car on n'a jamais entendu de chanson d'Elvis Presley exaltant les éphèbes. S'il n'y a pas de légitimité dans la chanson américaine populaire des années 50 et 60 à exalter les éphèbes, c'est sans doute que cela correspond à un interdit justement de la société américaine. Et si, au contraire, dans la civilisation arabo-musulmane classique, on parle de ce type de relation, c'est sans doute justement que cela existe et c'est sans doute que cela a une à un type de légitimité sociale à défaut d'avoir une légitimité religieuse, que évidemment elle n'a pas.
Mais vous savez que cette structure qui se trouve dans le poème bagdadien de la fin du 8e siècle ou du 9e siècle, anthropologiquement, elle se continue dans les sociétés arabes et musulmanes jusqu'à aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas aujourd'hui précisément ce qu'il en est, mais quand on est soi-même garçon ou tout jeune et qu'on n'est pas dans cette attirance homosexuelle, on sent la violence d'un viol possible, je veux dire, elle est là, elle est manifeste, cette idée de le passif est assimilé à la femme, considérée elle-même comme un être inférieur.
Tout à fait, puisque nous sommes dans le cadre de la domination du phallus, hein, qui est exalté, et donc que l'objet de désir soit masculin ou féminin, finalement, est peu important à partir du moment où on construit socialement le jeune homme qui n'a pas encore eu sa première barbe ou qui est en train de laisser pousser sa première barbe comme n'étant pas encore tout à fait un homme et donc étant un objet légitime d'attraction. Cela va se perpétuer dans les pratiques sociales bien plus longtemps, évidemment, que la légitimité de cette thématique dans la littérature. Bien que je suis en train actuellement de lire un roman saoudien et dans lequel le héros se rappelle son enfance, il se trouve être un saoudien d'origine turque, donc la peau très blanche, il est un peu grassouillet et donc son corps ressemble trop au corps d'une femme et la rue est une aventure, exactement comme dans ces aventures des mille et une nuits, où finalement le sens d'un certain nombre de contes des mille et une nuits est d'apprendre aux adolescents mâles à gérer l'espace public et à se méfier de ces hommes qui tentent d'abuser d'eux. La rue saoudienne de 1950 apparemment est encore, elle aussi, dans cette
optique. Le mal commence dès que vous quittez le seuil de votre maison.
Donc il est logique que l'on préserve les filles, puisque même les garçons doivent apprendre, et c'est douloureux, à devoir exister dans ce monde homosocial, dans le monde des hommes, où les dangers sont partout. Maintenant, ce qui se produit dans le monde moderne, c'est l'accumulation des scripts et l'accumulation des discours. Il y a à la fois ces représentations anciennes qui n'ont pas tout à fait disparu, mais nous sommes également dans un monde de la communication où l'évolution des mœurs et d'autres mœurs venues depuis le choc avec l'Occident colonial au XIXe siècle apportent des discours, des représentations, des comportements différents. Et l'individu est amené à naviguer, choisir ses comportements entre ces multiples exemples, ces multiples scripts, qu'ils soient propres à la culture dont il est issu ou qu'ils viennent d'ailleurs. ليلى 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 على ضي القمر ليلى 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 حلو الدار ليلى 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 على ضي القمر ليلى 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 حلو الدار
Frédéric Larange, on reprendra ce qu'il en est de la modernité, mais venons-en là pour l'époque classique, à ce qu'il en est des femmes et de leur rapport avec le sexe, avec l'expérience sexuelle, dans une société évidemment construite sur la séparation des sexes, mais aménageant aussi des séances où les femmes sont présentes, particulièrement toutes ces femmes savantes, sachantes, musiciennes, danseuses, qui sont présentes, les fameuses qaynées, et ce qu'il en est aussi de certaines princesses qui s'attribuent, ou certaines femmes issues, disons, du milieu patricien, qui s'attribuent elles-mêmes une forme de liberté. Nous pensons, par exemple, à deux exemples. Un exemple soutenu par la littérature, la fameuse Taouette du conte des mille et une nuits, et disons Walled, la poétesse issue de la famille califale vers l'an 1000 à Cordoue. Ce qu'il en est de cette situation des femmes par rapport justement au texte comme pratique et comme texte.
Alors, les textes laissent penser qu'il y aurait eu une sorte d'autorisation à la fréquentation des hommes et des femmes dans la société bédouine ou dans certaines parties de la société bédouine de la péninsule arabique, un souvenir de ce mélange harmonieux, de cette sorte de mixité sociale est présent dans un certain nombre de textes médiévaux. La réalité sociale est que les habitudes du monde méditerranéen oriental vont s'imposer au monde de l'islam à partir du 8e siècle, 9e siècle, et de façon générale, il semble que plus on est haut dans l'échelle sociale, plus la claustration des femmes est une règle, à l'exception d'un certain nombre de femmes de pouvoir qui sont tellement haut dans l'échelle sociale qu'elles peuvent s'arroger un espace de liberté. Mais en gros, plus la femme est libre, musulmane et riche, plus elle est soumise à la claustration. Par opposition, si elle est paysanne, si elle est servante, elle sort, elle connaît l'espace public.
Mais certaines de ces femmes riches et libres se permettent aussi des libertés. Je vois l'exemple de Walid.
Justement, c'est ce que je disais, par les exceptions étant celles qui sont si haut dans l'échelle sociale qu'elles peuvent, elles, tenir des salons littéraires. Maintenant, ceci est l'une des versions qui ressort de la lecture de la littérature. Par contre, lorsque l'on lit la littérature des docteurs de la loi, ce qui rappelle les comportements qui devraient être ceux des femmes, il semblerait que finalement les femmes se soient donné une partie de l'espace public que les hommes leur refusaient et qu'elles prenaient de force. Les docteurs de la loi du Caire du XVe siècle, rappelant édit après édit que les femmes ne devraient pas sortir de chez elles, qu'il est scandaleux qu'elles se visitent les unes les autres, qu'il est incroyable qu'elles admettent de recevoir des marchands ambulants mâles qui leur présentent des marchandises, qu'elles se rendent au hammam. Ces femmes qui osent marcher droit dans la rue alors qu'elles devraient raser les murs lorsque passe un homme. Eh bien, à partir du moment où les docteurs de la loi ne cessent de répéter ce type de discours édit après édit, leur répétition prouve en elle-même que les femmes ne tenaient pas compte de ce type d'obligation et que dans la réalité des faits, il leur était possible de sortir. Cela dit, la claustration demeure quand même la norme, et à partir du moment où elle est la norme, même s'il y a un espace de liberté, c'est tout de même ce qui fut le sort féminin fondamental jusqu'au XIXe siècle, quand le choc de la découverte de l'Occident et de la mixité en Occident fait réaliser très rapidement à tous les intellectuels musulmans qui se rendent en Occident qu'il est nécessaire de changer les règles de la société, que la femme doit réintégrer l'espace public, ou intégrer, pas réintégrer d'ailleurs, elle doit intégrer l'espace public, et que la littérature, la poésie, doit désormais concevoir, fabriquer la femme comme unique objet d'exaltation et de désir.
Frédéric Lagrange, un dernier cas pour qu'on finisse quand même sur le contemporain de l'époque classique. Je pense à Ibn Hazm et à son collier de la colombe, ce livre donc consacré à l'amour, qui, comme vous le savez, est un livre qui grouille de vécu et d'anecdotes, d'expériences qui ont véritablement eu lieu. J'ai souvenir d'une page qui peut être symptomatique, qui signale très précisément ce que vous essayez de, disons, de critiquer, de neutraliser dans votre livre « Islam d'interdit, Islam de jouissance ». C'est cette page où Ibn Hazm s'étonne du succès extraordinaire qu'a un homme de sa connaissance très laid. Et il s'adresse à certaines femmes qui l'ont connu, et la réponse de ces femmes était tout simplement une extraordinaire exaltation crue, mise donc dans la bouche d'une femme, des capacités impressionnantes sexuelles de cet homme. Et que cet homme, donc, réussissait à satisfaire d'une manière extraordinaire les femmes, d'où donc son succès, avec une description très précise. Le premier traducteur français dans les années 50 à Alger, de ce livre. Une note en bas, c'est tellement abominable cette page que je ne peux pas la dire en français et il l'a traduit en latin. Vous voyez que là nous nous trouvons dans une situation quand même qui met un peu, qui ruine un peu votre approche. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah mais je crois qu'elle ne ruine en rien mon approche. C'est tout à fait symptomatique du moment du passage de relais entre le moment où la littérature arabe médiévale va être la littérature de l'obscénité, de la crudité, de cet Orient qui est travaillé par un désir obscène en permanence, et le moment contraire où l'Occident va se mettre à produire ce discours de désir, et où en même temps la volonté de modernité du monde arabo-musulman, avec en quelque sorte un train de retard, va impliquer d'adopter la pudibonderie occidentale, et où le décalage deviendra insupportable.
Le traducteur d'Alger n'était pas encore sous l'effet de la libération des mœurs, à la même époque, les fées Brigitte Bardot et François Sagan, si j'ose dire.
Exactement. Et nous sommes actuellement dans ce décalage où le monde arabo-musulman, pour être moderne, a adopté des valeurs de pudibonderie qui sont les valeurs de l'Occident d'avant la révolution sexuelle.
Alors, un mot, on finit là-dessus, parce que c'est très important, sur ce redéploiement de la question homosexuelle, notamment, et du féminisme, qui sont un des effets des gender studies qui ont été fréquentés dans les campus américains par nombre d'originaires d'islam. Ce mouvement assez extraordinaire, j'en ai rencontré un certain nombre, j'ai rencontré le secrétaire général, par exemple, d'une série d'associations gays. Ils venaient de rentrer de Jakarta où ils ont eu leur congrès, leur premier congrès international, les Muslim Gays, et le secrétaire général était un jeune bosniaque de Sarajevo. Qu'est-ce qu'il en est de ce mouvement où le queer américain est présent, où les gays, une thèse qui est faite à l'université américaine du Caire sur le milieu gay, une enquête sociologique du Caire justement, ce Caire complètement pudibond a aussi son milieu gay et son milieu lesbien.
Je crois qu'il l'a toujours eu, et comme toutes les villes du monde arabo-musulman, ce qui se passe maintenant, c'est une confrontation de divers modèles. Il y eut un moment où les comportements des individus n'impliquaient pas une identité sexuelle, où vous faisiez ce que vous vouliez faire, ce que vous pouviez faire, mais que les actes n'étaient pas définitoires d'une identité. Nous sommes, du fait de l'influence occidentale et particulièrement américaine, à une époque où avec qui on couche détermine qui on est. Et qu'on le veuille ou non, Joseph Massad a fait il y a quelques années un article célèbre aux États-Unis déplorant que l'international gay ait imposé ses valeurs au Moyen-Orient, et la logique de son article était « laissez-les vivre car dans le secret ils vivent beaucoup mieux ». Qu'on le veuille ou non, nous n'en sommes plus là, puisque justement les modèles et les scripts comportementaux se sont accumulés, et toute la difficulté en fait des jeunes gens, jeunes filles, femmes du monde arabe, est de pouvoir allier le désir, le désirable et le possible, avec, mon Dieu, des capacités différentes et des succès différents selon là où ils sont.
Frédéric Lagrange, une toute dernière question, une notion pour moi essentielle et importante que je perçois très présente chez nombre de figures venant de l'islam classique, que, comme vous le savez, j'aime beaucoup, et qui est une notion grecque, qu'a essayé de restaurer Michel Foucault, justement, dans la volonté de savoir, ce qu'on pourrait appeler le souci de soi, et le fait de conduire sa vie, sa propre vie, comme une œuvre d'art. Cette notion de souci de soi, si présente, grecque, et si présente dans la cité islamique classique, est-ce que vous la percevez, est-ce que vous en constatez l'effet dans le Caire actuel, par exemple, chez un certain nombre d'individus?
Je crois que l'on pourrait éventuellement l'apercevoir dans la littérature arabe moderne, dans ses toutes dernières productions, avec simplement une nuance qui pour moi est quelque peu désolante, c'est que le plaisir était drôle à l'époque médiévale, le plaisir était source de sourires, de moqueries, le plaisir maintenant est beaucoup plus une douleur.
Écoutez, Frédéric Lagrange, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que vous me donnez en finissant par ces termes. Merci Frédéric Lagrange pour cet islam interdit, islam de jouissance. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Coordination Dominique Compétissa, technique son Jean-Michel Després, réalisation François Connac. Merci à eux trois. Come on, you can dance.